Salut les marques et les smarts et bienvenue sur le supplément SmackDown réalisé par l'équipe de Catch Up, le podcast officiel des Cahiers du Catch. Et aujourd'hui, nous vous parlerons donc de SmackDown qui a eu lieu le 16 août à Austin au Texas. Et pour cela, j'ai comme invité le fameux, le joyeux, le trublion Giscal.
Salut Giscal. Salut tout le monde, salut.
SmackDown a commencé comme à son habitude avec un opener et son habituelle séquence backstage avec Shane McMahon et Bryan, donc les tenanciers de la brande bleue.
Oui.
Ils sont rejoints par Randy Orton pour qui il propose la fameuse signature de contrat pour SummerSlam. Alors on a un peu moins de moyens visiblement à SmackDown parce que les signatures de contrat
se font dans un bureau.
Voilà, dans les vestiaires. Voilà, fini les signatures de contrat. Sur le ring en main event. Randy Orton prévient, alors il a un peu gâché la fête, un peu party crasher, il dit bah écoutez les gars, vous emballez pas trop parce que l'affiche est peut-être belle avec Brock Lesnar, mais grosso modo le match va aller très très vite puisqu'il lui suffit d'un seul RKO pour gagner. Sur ces entrefaits, interruption de Heath Slater, le plus hot free agent du divertissement sportif, putain quelle drôle de formule, qui n'est pas venu les mains vides puisqu'il apporte un panier de fruits.
Ouais.
Donc en cadeau, il rappelle à notre bon souvenir et surtout au bon souvenir de McMahon et de Bryan, hein, de sa performance face à Brock Lesnar à Raw. Nos copains de Catch Up vous en ont déjà parlé, mais voilà, il a tenu tête de façon fort honorable à Brock Lesnar avant de se prendre évidemment une grosse dérouillée. Donc il vient quémander une fois de plus une signature un contrat, quoi, hein. Finalement c'est son objectif à notre ami Rouquin. Et les deux patrons sont pas très très chauds, hein, visiblement, à l'idée de signer Heath Slater. Mais Orton a visiblement une petite idée, déclare-t-il, tout en mangeant une des pommes qui était dans le panier de fruits apporté par Heath Slater. Donc évidemment, l'idée, vous l'aurez tous deviné, c'est un match opposant la Vipère au One Man Band. Alors, c'est décidément, Heath Slater va en prendre plein la tronche cette semaine, puisque là, Orton de l'US ne met juste aucun répit. On a vraiment là le Randy Orton hyper agressif qu'on nous vend depuis son retour. À tel point que, je vous passe les détails, mais à tel point que l'arbitre finit par sonner la fin du match, car Randy Orton reste un peu trop longtemps dans le coin à tabasser le pauvre Slater. Il suit pas trop les directives de l'arbitre, hein. Il a tellement de voix dans la tête qu'il n'entend pas celle de l'arbitre qui lui demande de reculer. Donc victoire de Slater par disqualification.
Oui.
Randy Orton, c'est pas ça qui l'arrête, hein, il continue à s'acharner sur Heath Slater, il mime, il en profite pour mimer un peu Brock Lesnar, vous connaissez la petite danse de Brock Lesnar également.
Il sautille, là. Ouais.
Voilà, il sautille, vous la connaissez tous. Il place 2-3 souplex sur Heath Slater, que je trouve personnellement un peu moins impressionnante que celle de Brock, évidemment.
Un petit peu moins, ouais.
Mais bon, il veut dire que moi aussi je sais porter des souplex, Brock. La foule est vraiment en délire, hein, Giscard. Je ne sais pas si toi, tu as fait attention à ça, malgré le fait que Randy Orton était quand même assez agressif et que Heath Slater, le pauvre, s'en prenait plein la tronche, la foule voulait son RKO. Elle finit évidemment par l'obtenir. Quand Randy Orton repart, le petite anecdote qui aura peut-être son importance plus tard, il croise le chemin de Bray Wyatt, qui lui vient pour son prochain match, mais ça on en parlera un petit peu plus tard. Je connecte tout ça à la suite, puisqu'on a une autre séquence backstage autour de cette storyline de Heath Slater, où le pauvre vieux est chez le kiné, hein, chez le médecin qui est donc toujours backstage pour soigner les petits bobos des catcheurs à la sortie de leur match. Ah, visiblement, il est mal en point, mais malgré tout, GM et commissionnaire sont venus le féliciter, hein, pour sa prestation et surtout pour sa victoire, puisque comme je l'ai dit tout à l'heure, Randy Orton a perdu, hein, par disqualification, et donc Heath Slater est le grand gagnant de ce match. Donc ils viennent lui proposer un contrat, tout simplement. Donc aïe, enfin, Heath Slater a son contrat, mais il a pris un tel coup sur la caboche, le pauvre vieux, qui il est totalement amnésique et qu'il reconnaît personne en tout cas. Il confond notamment Daniel Bryan avec Mick Foley. Et,
Ouais.
bon, ça, ce qu'on peut à peu près comprendre, ils ont un peu le même style, la barbe,
Ouais.
la chemise de bûcheron. Bon, j'avoue, la nuit dans une ruelle.
Pourquoi pas?
Hein?
Enfin, faut vraiment en avoir pris plein la tronche, mais il se trouve que c'était le cas.
Exactement. Et par contre, là, un peu plus gênant, on va dire, il confond Shane avec sa sœur Stéphanie. Il trouve qu'il lui fait une. Il le complimente sur sa beauté, il me semble.
Plus emmerdant. Oui.
Voilà, donc
Il
c'est
est
un peu
très très
plus
bête.
embêtant. Donc, Shane McMahon, visiblement un peu refroidi par ce que vient de faire Heath Slater là à l'instant, et peut-être un peu vexé, je sais pas. Hein,
Sans
lui
doute.
retire le contrat qu'il avait sous le nez. Donc un peu en mode connard, hein, Shane McMahon. J'ai pas trouvé ça très sympa. Donc, Heath Slater se retrouve avec un crayon à la main, mais plus aucun papelard à signer. Donc ma petite question là pour toi Giscard, au-delà de toute cette séquence, qu'est-ce que tu as pensé notamment de Randy Orton donc c'est vraiment cet aspect très agressif. Est-ce que ça y est, toi t'es chaud pour l'affiche qu'il va opposer à Brock Lesnar? Et si tu veux également, on peut parler un petit peu du traitement qui est offert à Heath Slater, même si nos
Ouais.
copains de Catch Up Raw ont également un petit peu parlé.
Ouais. Bon, écoute, moi, Randy Orton, je suis vendu, j'ai été vendu sur le match depuis 2 semaines déjà, dès son RKO surprise à Raw. Moi, c'est vraiment ce qui a lancé, c'était l'étincelle de la feute pour moi. Donc, à partir de ce moment-là, j'étais à fond. Mais j'ai beaucoup aimé. Il y avait plein de bonnes choses cette semaine, je trouve, dans tous les petits segments que tu as racontés, notamment son côté beaucoup plus agressif. Ouais, j'avais pas trop accroché à ces squashs de retour un petit peu qu'il avait fait. Et là, c'était vraiment très, très différent. En effet, il est arrivé super focus et sur le ring, il a défoncé Heath Slater, il a dû être arrêté par l'arbitre. Et finalement, à une semaine de SummerSlam, c'est ce Randy Orton-là qu'on a envie de voir parce que c'est celui-là qui a le plus de chances de faire quelque chose contre Lesnar. Donc, c'était vraiment intéressant de le dépeindre de cette façon-là. Donc, clairement, c'était bien. Les petits taunts à la fin, c'était bien vu aussi. Hein, les German suplex.
Ouais, il a vraiment déroulé son arsenal, justement, comme tu dis, au début du match, là.
Ouais,
Il a
ouais, ouais,
déroulé
ouais.
tout son
Il
arsenal
a
sur
tout
Heath
fait.
Slater, il lui a tout fait, quoi. Les stomps sur les membres.
Exactement. Il lui a tout mis, ce qui du coup met dans la tête du public que okay, Randy Orton, c'est tout ça, et ça peut aller très vite, en effet. Et ça peut aller très très vite, et c'est là-dessus qu'ils ont axé toute la force de Randy Orton depuis le début du build, c'est que le mec est foudroyant, il peut en un enchaînement de moves, et surtout dans un RKO, gagner contre n'importe qui. Donc c'est du bon booking, c'est relativement bien joué. Moi, je suis un peu déçu dans le segment d'ouverture avec l'interview, quand il croque la pomme et qu'il dit « j'ai une idée ». J'étais quasiment sûr qu'il allait lancer la pomme en l'air pour que Heath Slater la rattrape et qu'il allait mettre un RKO sur la table. J'aurais trouvé ça pas
Oh,
mal.
ah ouais.
Mais bon, il a pas fait. Bon, j'aurais trouvé ça cool. Je m'attendais un peu à ça. Mais bon, voilà. Bon, écoute, c'est très efficace. Le build, c'est devenu un peu un concours de qui a la plus grosse et c'est très très égocentrique comme build. J'aime bien les deux catcheurs. Arrow, ils ont dû en parler, mais voilà. Brock Lesnar, Paul Heyman a fait tout un speech. Ouais, j'aimerais bien vous vendre le match, mais en fait, il n'y a rien à vendre. Le seul truc qu'il y a à vendre, c'est Brock Lesnar, c'est Brock Lesnar, c'est Brock Lesnar. Et puis là, Randy Orton, il arrive, il dit, ouais, bon, écoutez, vous emballez pas trop avec votre contrat et votre match à SummerSlam, parce que moi, je vais vous régler ça en 2 secondes. Donc les deux sont ultra sur deux, sont bookés ultra forts, ultra dominants, et je trouve que c'est bien. Enfin, c'est très bien. Voilà, je suis super chaud pour le match, et je suis pas, bon, on verra peut-être à la fin les pronos, mais je suis pas super serein sur, enfin, qui va gagner, en fait, je
Ah
vous
bah
dis.
ils ont réussi à nous mettre pas le
Ouais,
doute, mais en tout cas à les remettre un peu sur le même au même niveau quoi.
c'est pas mal du tout.
Donc quand on se souvient voilà qu'ils avaient lancé, on pensait que ça allait être un match de gala sans build,
Non,
bah
non, c'est pas mal du tout.
ils l'ont bien fait à l'envers si je puis dire et on est bien content. Bon, finalement on va zapper l'histoire de Slater, ils en ont
Oui, oui.
suffisamment parlé à Raw et je l'espère on pourra en reparler les semaines suivantes parce qu'on
C'est
s'éclate
cool ce qu'ils font avec lui.
avec
Hein.
le rouquin.
C'est bien foutu.
Un autre segment qui suit. C'est Miss TV. Alors effectivement, on pleure un petit peu que SmackDown ait récupéré Miss TV, mais si on récupère Miss TV, on récupère le Miz et Maryse, et ça c'est pas mal.
Et ouais.
Donc on a annonce de Maryse qui nous invite à nous lever en honneur du catcheur le plus sexy, le plus beau, le plus formidable. C'est son mec, le champion intercontinental, le Miz. Le Miz qui n'a pas trop le temps de faire son numéro habituel puisqu'il est rapidement interrompu par Dean Ambrose, le champion WWE. qui lui-même est rapidement interrompu par Dolph Ziggler, car comme vous le savez, les deux sont en rivalité pour le titre suprême, puisque pour à l'heure actuelle, ça reste le titre
C'est ça.
suprême, pour SummerSlam.
C'est important de le rappeler.
C'est important de le rappeler, exactement. Pour l'instant, il n'y a qu'un titre suprême. Donc, Miz, comme à son habitude, et il est excellent évidemment dans ce registre, mais totalement over, à la fois la rivalité, mais également Ziggler, tout en apportant une certaine nuance, parce qu'il tente un peu de lui mettre le doute, parce que c'est la fameuse faille de Dolph Ziggler, les doutes, le mec qui se prend la tête, se pose beaucoup de questions, etc. Donc Ziggler rétorque que lui, il va sortir champion, et il est sûr de son coup. Évidemment, enfin, effectivement, les catcheurs ont un regain de confiance ces derniers temps dans le show bleu, en tout cas. Mais Dean Ambrose, lui, visiblement, ne mord pas, il n'y croit pas trop à cette histoire de nouveau Ziggler. Ok, oui, effectivement, il a vu qu'il était un peu plus sûr de lui, etc. Mais surtout, il le met en garde et lui dit, bah écoute. Dolph, imaginons, allez, imaginons que tu gagnes, toujours avec cet air un petit peu détaché,
Ouais.
un peu prétentieux, nonchalant, etc. Imaginons un monde un peu fantasy, toi qui aimes bien le fantasy booking, on va dire, que tu viennes à gagner, voilà, Dolph Ziggler sorte champion, etc. Bah, mon gars, tu supporterais pas la pression. Voilà, c'est ce que dit Dean Ambrose à Dolph Ziggler. Et il dit que tout va être beau tout d'un coup, ça a été champion. En gros, une fois que tu es champion, tu as fait le taf et c'est bon. Au passage, cette séquence, je vous conseille de regarder. Enfin, je vous conseille. Non, à la limite, je vous le déconseille parce que c'était pas forcément un super numéro de podcast de Stone Cold Steve Austin qui a invité Dean Ambrose. Dean Ambrose n'est clairement pas quelqu'un qui aime parler, surtout parler de lui. Pour autant, il y a une grosse séquence où justement Stone Cold bah, dit un peu les mêmes choses que Dean dit à Dolph Ziggler, c'est-à-dire, voilà, maintenant que tu es champion, mec, tu es peut-être un peu reposé sur tes lauriers, est-ce que tu arrives à supporter la pression, etc. En gros, est-ce que tu es vraiment un champion matériel, etc., etc. Donc, c'est intéressant, je sais pas dans quel ordre tout ça a été tourné, j'imagine que d'abord c'est le podcast, mais visiblement, ça a
Ouais,
inspiré
c'était le
Dean.
podcast.
On revient au show bleu. Ziggler rétorque à Dean qu'il a intérêt à tout donner, que visiblement Ambrose ne mesure pas tout le feu sacré qu'il anime, que bah, Dean Ambrose n'est pas dans la tête de Dolph Ziggler, il ne sait pas ce qu'il attend. Il finit cette séquence en déclarant qu'il n'a besoin que d'un dernier move, a last move. Et là, il dégaine son super kick et il allonge Dean Ambrose.
Ah ouais, et puis il part bien,
En
putain.
un éclair, là, l'extension, enfin, je veux dire, jusqu'à toi, je ne sais pas, mais moi, je fais ça. Déjà, je n'arriverai pas à le faire.
Ah non,
Mais
non.
clairement, bah, c'est arrêt de travail pour 6 mois. Hein.
Je crois que c'est le claquage direct.
Disons, si je fais ça au bureau, évidemment. Et donc, il lui déclare dans un dernier, voilà, une dernière déclaration avant l'affrontement, qui va lui montrer how damn good he is. Donc, Dean Ambrose est allongé et Dolph Ziggler part donc. Sur ces entrefaits. Donc, mon Giscal, est-ce qu'on est chaud bouillant pour ce match?
Ouais, franchement, enfin moi je suis super chaud. Mais pareil, en fait, bon, tu me diras, c'est le principe des go home show, hein, ça ne fait que conforter nos positions. Mais moi j'étais déjà très très chaud depuis la première promo, parce que j'ai trouvé que celle-ci c'était un peu une redite dans pas mal de points de leur grosse grosse promo d'il y a 2 semaines entre les deux. Mais ouais, enfin moi je suis super chaud. Ce nouveau Ziggler, j'achète à fond. Et ce nouveau, enfin en tout cas ce Ambrose 2.0, on va dire, qui joue beaucoup plus sur ses points forts, qui sont vraiment son personnage, son attitude, sa morgue un peu, son côté cool, badass, un peu fou, un peu dans sa bulle. Il joue beaucoup plus dessus maintenant en tant que champion et ça marche beaucoup mieux. Donc en fait, ces deux personnages donnent déjà, en fait, là on est plus sur une bataille vraiment sur une feute de personnages qui connectent plutôt bien avec le public, contrairement à par exemple la feute d'avant dont on a parlé, Brock Lesnar, Randy Orton, qui sont là vraiment une feute de box-office, une feute de ça, là c'est plus le combat qui nous donne envie. Là c'est je trouve que c'est plus les deux personnages, les deux oppositions de deux mecs qui viennent un petit peu des tréfonds de la carte,
Ouais, leur histoire, leur
et voilà,
passé.
ouais, leur passé. Finalement, on regarde leur position il y a 6 mois, c'est assez intéressant, hein, de voir un main event de SummerSlam pour le titre suprême entre
Oui,
Dean
t'as
Ambrose
raison.
et Dolph Ziggler.
D'ailleurs, je sais pas si Miz ou Dean qui rappellent à Ziggler, mec, il y a 6 mois, on n'aurait jamais imaginé que tu serais à l'affiche au main event de SummerSlam, mais là, il parle pour nous, quoi.
Ouais, il parle pour nous. Et d'ailleurs, c'est intéressant le parallèle parce que tu faisais avec le podcast, et je trouve que c'est quelque chose que j'avais ressenti pendant toute la promo, que ce soit au niveau de sa remarque sur le fait, bah écoute, mec, t'étais où il y a 6 mois, ou le fait que maintenant que t'es, même si jamais tu gagnes, quand tu seras champion, imaginons que tu gagnes, la pression que t'auras et tout. En fait, je trouve que le discours de Dean Ambrose s'appliquait autant à Ziggler qu'à lui-même. Donc
Ouais.
c'était assez intéressant. Enfin, c'était intéressant pour nous qui analysons le segment, qui disons un petit peu entre lignes, mais c'était en même temps un peu bancal à la fois, intéressant et bancal, parce que je me dis que pour le public, enfin même pour le public, pour les téléspectateurs, ça pouvait peut-être un petit peu sonner faux. Moi, à certains moments de la promo, j'étais là en train de me dire, bon, écoute, t'es gentil Ambrose, mais calme-toi, t'es champion depuis
T'as pas encore fait tes preuves.
champion depuis un mois, t'es en train de donner la leçon et tout, bon bah jusqu'à preuve du contraire, t'as pas encore fait de grosses défenses de titre et tout, donc bon. Donc c'était un peu bizarre aussi, un peu
Ouais, c'est
comme
un peu l'arrogance de celui qui a encore
ouais.
rien prouvé. Donc c'est
Donc
vrai que.
attention à ça. Bon et puis donc oui, enfin bon, en tout cas pour revenir sur ta question initiale, moi je suis super super chaud, et le point d'exclamation de ce build, c'était vraiment le super kick final de la promo. Enfin oh, faut le voir, enfin
Ah ouais.
il part de nulle part, franchement ils sont collés pour, il faut ceux qui n'ont pas vu la séquence, faut que vous la voyez,
Cette
ils sont
détente.
Ah ouais, ils sont quasiment collés à 1 mètre l'un de l'autre, à se gueuler au visage. Et d'un seul coup, bam, il y a le pied qui part dans le menton de Dean Ambrose. C'est impressionnant, la
Bah là, en
détente.
fait, la tête de Ziggler est remplacée par son pied tout d'un coup.
Ouais, c'est stupéfiant. Et ça claque, et c'est beau, quoi. Enfin, vraiment, juste après la grosse tirade de Dolph Ziggler, c'est juste super, quoi. Donc voilà.
Et t'es rouge, hein, Dolph
Ah
Ziggler, le
ouais.
visage, on sentait, t'avais les veines du prêt à exploser, il
Donc
bouillait, quoi.
il était en feu, genre il en avait marre que l'autre soit là en face de lui, à lui faire un peu le même couplet qu'il y a 2 semaines, genre tu sais, Ziggler s'énerve, 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 et puis l'autre il est là en face. Non, non.
Non, je
Non,
prends pas, non, non, non. Ah
et
oui,
donc
j'imagine que ça le
au bout d'un
frustrait
moment tu
d'autant
pètes un
plus.
câble, et bam, tu lui en décales une grosse, et bah ouais, c'était nickel. Moi, j'ai pas grand chose à dire, si ce n'est que voilà, ça fait un peu redite, et que c'était un peu bizarre parce que Dean Ambrose est peut-être pas le meilleur pour sortir ce couplet là, mais
Ah, disons que ils ont rapidement tout donné quasiment dès le début de la rivalité. Souviens-toi, hein, Dolph Ziggler, il y a 2 ou 3 semaines, je ne sais plus quand a commencé exactement la rivalité, mais dès le départ, leur première confrontation verbale était déjà assez,
ouais,
assez enlevée. Donc c'est vrai que bon, il y a un peu de redite dans tout
il y
ça,
a forcément un peu de redite.
mais on sent qu'ils ont vraiment envie d'en découdre. En tout cas, j'ai vraiment envie que Dolph Ziggler, effectivement, donne vraiment tout ce qu'il a comme jamais, quoi,
Oh bah,
genre.
je pense qu'on peut compter sur lui. Enfin, il a jamais déçu dans des matchs comme ça. C'est bon, faudra voir. Je le vois pas gagner. Hein. Bon, on verra sur les pronos et tout ce qu'on dit. Je le vois pas gagner, mais enfin, je sais que dans ces positions-là de one shot un peu, où il est mis dans le spotlight pour faire un gros match pour un main event comme ça, il fait le taf. Il y a déjà eu par le passé. Il avait eu un mini règne et tout. Il avait eu un main event contre Edge aussi, je crois. Il y a un petit moment où et puis il avait eu une feud contre Del Rio aussi dans le main event, où à chaque fois il faisait des gros matchs, donc il décevra pas là-dessus, je pense. Après, de là à dire est-ce qu'il va aller jusqu'au bout, prendre la ceinture, faire un gros règne et tout, bon, c'est pas.
Non, je pense que l'objectif vraiment là est de leur placer, de leur mettre
Ouais.
dans la cour des grands,
Ouais.
quoi, et d'en faire un main eventer de SmackDown, ou alors c'est son champ du cygne et le mec, c'est son dernier
Bah
match.
ouais, je pense que ça peut être son champ du cygne, ou le relancer, comme tu dis.
Il avait l'air tellement attiré par voilà, d'autres activités. Bon, on va
C'est pour
savoir.
ça que voilà, le match sera très intéressant à bien des égards.
Là, on enchaîne bah, avec la scène par équipe du show bleu, qui, bah, pour la peine, là, on a une espèce de bilan comptable un petit peu des équipes. Donc, pour tous ceux qui se demandent exactement il y a qui
C'est
comme
ça.
équipe SmackDown, bah, il fallait regarder cette séquence, puisqu'on a les Usos qui, si je dis pas de bêtises, bah, faisaient leur grand retour. Aussi grand pouvait-il être,
Ouais,
ce que
c'était un
je
peu anodin du coup.
Oui, c'était un peu anodin, qui vont donc faire équipe avec les American Alpha et les Hype Bros, si je dis pas de
Ouais,
bêtises, qui vont
horrible nom. Hein.
affronter les Vaudevillains, The Ascension et Breezango.
C'est ça.
Voilà, donc là on a toute la scène par équipe autour et dans le ring. Donc c'est un match de 6 contre 6, tout simplement. Je vous épargne le déroulé parce que dans ces types de matchs-là, c'est juste un défilé de super moves et de finishers. Ce qu'il faut retenir, c'est évidemment la victoire des gentils, je dis évidemment, parce que
Oui, c'est souvent le cas.
c'est souvent le cas des gentils, si on peut dire, sur un tombé des American Alpha. Et évidemment, du coup, qui entraîne la défaite des méchants. C'est assez aussi simple qu'un épisode de Bioman. Par contre, l'important, du coup, c'est de rappeler peut-être la rumeur. Officiel, si je puis dire, parce que c'est pas comme si Daniel Bryan et d'autres personnalités eux-mêmes en faisaient référence d'un titre par équipe.
Oui.
Donc, clairement, ce match-là est là pour faire le fameux bilan comptable dont j'ai parlé tout à l'heure, mais également un peu pour se positionner, hein, voir un peu les forces en présence. Et bah, il fallait briller ce soir hein, pour un peu se positionner dans la chaîne alimentaire, on va dire, de la scène par équipe. Donc, la question que je te pose, Magiska, c'est que est-ce que ce roster d'équipe est suffisamment solide pour apporter un nouveau titre de champion par équipe? C'est une question qui revient souvent et là, elle se repose avec justement cette séquence-là où on nous a montré bah, toutes les équipes de SmackDown, donc il y en a 6.
Ouais, il y en a 6. Bon, sur un point de vue purement comptable, c'est difficile de dire non, parce que, enfin, 6 équipes, oui, c'est assez. On peut faire une division par équipe, je pense, avec 6 équipes. En plus, il n'est pas exclu d'en faire potentiellement monter d'autres, de NXT, enfin, une, peut-être deux. Donc, oui, comptablement, oui. Après, moi, ce que j'ai vu dans le ring, je trouve ça léger, mais c'est parce que malheureusement beaucoup de ces équipes-là qui étaient présentes dans le ring payent le travail de sape, on va dire,
Ah oui.
d'il y a des enfin de mois et de mois où
Des mois de main event et main
on
event l'émission, évidemment.
sait que on sait que bon, je parle surtout pour les heels, mais c'est vrai que The Ascension, Breezango et Vaudevillain, c'est plus des équipes de rigolos qu'autre chose. Donc, on a du mal à les voir, à les envisager autour d'une ceinture. Les Hype Bros, bon, bah, c'est pareil. C'est aussi une équipe un peu plus comédie low-card que du potentiel main event. Donc, derrière, t'as quoi? T'as les Usos et American
American Alpha, ah oui, les plus gros, on va dire,
les plus gros,
prétendants, quoi.
qui sont techniquement des équipes titrables, on va dire. Donc, ça fait. Là, par contre, ça fait peut-être un peu léger. Après, bon, tu me diras, dans le catch, ça va très vite. Quelques semaines de bons épisodes de SmackDown peuvent te reconstruire The Ascension, les Vaudevillains.
Bien sûr.
Ça va vite, hein, le public oublie relativement vite. Là, dans l'immédiat, si tu me demandes ça maintenant, je me dis non, enfin, je vois pas une division solide par équipe aujourd'hui.
À la limite, est-ce qu'il ne serait pas préférable de trouver un moyen de remettre en jeu le titre actuel entre la meilleure de toutes ces équipes de SmackDown face à bah, celui qui sortira champion sur SummerSlam entre le New Day
Ça
et le
pourrait
club,
être
quoi.
une idée plus marrante, c'est vrai. Après, bon, la question se poserait si le titre passe à SmackDown, la question se reposerait à Raw. Du coup, peut-être que Raw dit bon bah va bah, recréer un titre, mais bon, ils l'ont déjà fait pour le titre majeur, le titre solo masculin, donc ils vont peut-être pas le refaire à Raw encore. Mais c'est vrai qu'on pourrait imaginer à SmackDown définir une sorte d'équipe challenger qui va défier le New Day ou le club. Et puis bah, voilà, le gagnant ramène le titre à la maison. Pourquoi pas, hein, ça peut être une idée. Bon, vu qu'ils ont annoncé une nouvelle ceinture, je les vois mal prendre cette route-là maintenant.
Ouais, et puis ce nombre incalculable de pay-per-view
Ouais, le nombre de pay-per-view.
exclusifs au brand, là j'ai regardé la vite fait, enfin c'est booké jusqu'à la fin de l'année quasiment. Hein. Là on va voir SummerSlam et le nombre de pay-per-view exclusifs, il y en a 3 de chaque côté là déjà, rien que pour la rentrée, de septembre à octobre, novembre, décembre quasiment. Donc, et comme tu le dis, ils ont annoncé le nouveau titre, en tout cas, ils en ont beaucoup parlé. Et comment dire, les vases communicants entre les deux brands, les deux émissions sont assez minces. Et voilà, à part un Randy Orton qui vient claquer un RKO à Brock
Oui,
Lesnar,
à part ça,
et Heath Slater qui cherche un contrat.
on suppose qu'on verra pas d'autres angles d'invasion après celui de Randy Orton avant un petit moment, parce que c'est pas le but. Enfin, en tout cas,
Non.
j'espère que c'est pas le but de la séparation des brands.
Ouais, ce qu'on peut comprendre, parce qu'il faut vraiment marquer, ça aurait été dommage
Ah bah oui.
à
Oui,
peine
c'est
après
sûr.
avoir créé la séparation, de commencer déjà à avoir des
Tu te
infiltrations
croisais,
partout.
non, c'est pas possible. Donc, je suis
Voilà.
d'accord. Mais bon, voilà. Bon, là, dans l'état actuel des choses, c'est délicat de le voir. Après, je me dis que bon, bah,
Bon, d'un
ok.
point de vue numéraire, en tout cas, il y a ce qu'il faut.
Oui.
Maintenant, il faut monter la qualité, peut-être voilà, remonter des rivalités et repositionner un peu tout le monde pour.
Ouais.
Voilà. Après, du côté de Raw, tu me diras, ils sont pas beaucoup et c'est eux qui ont le
Non,
titre.
ils sont pas nombreux, mais bon, c'est tu me diras, ils ont le truc, c'est qu'ils ont New Day, qui est quand même, bon, bah voilà, c'est les champions les plus over depuis une éternité. Ils ont le club, qui est quand même une équipe heel beaucoup plus sérieuse que The Ascension, Breezango ou les Vaudevillains. Ils ont une petite équipe qui monte, qui moi m'émoustille un peu là, Jericho là. Je
Oui,
suis content,
oui, oui, oui.
je suis content, ils ont adopté mon nom. Hein.
C'est ça, c'est la dernière fois que je cherchais à me dire
Je pense que tout le monde y
quelqu'un en
avait
avait
pensé.
parlé.
Mais bon, il y a ça. Enfin, il y a des équipes un peu plus sérieuses qui font un
Ouais.
petit peu plus main event par équipe que.
C'est vrai, ouais,
Et puis
plus soft.
ils ont Enzo et Kaft, ils ont Enzo et Kaft. Enfin, bon, bref.
J'avoue.
Voilà, tu vois, tu te dis American Alpha, imaginons, c'est eux les champions de SmackDown. Bon, bah, ils font une feud contre The Ascension qu'on aura fait faire 2-3 squash les semaines d'avant pour les mettre en Monster Heel. C'est pas une feud passionnante. Et derrière, ils vont se farcir quoi? Les vaudevillains qui se sont fait torcher par tout le monde ou Breezango qui prennent des selfies, là. C'est un peu léger. Mais bon,
Alors,
tout est possible.
tout est possible, effectivement. On crée bien des ceintures du jour au lendemain.
On peut créer des challengers
On
aussi,
peut
hein.
créer des challengers du jour au lendemain. Alors, sur ce, une chose, alors, je ne sais pas si ça t'excite, mais on a une petite vidéo packaging annonçant le retour justement d'un ancien champion par équipe, un certain Kurt Hawkins. Alors, je ne
Ouais.
sais pas si vous vous souvenez, mais Kurt Hawkins, il avait rejoint notamment la fameuse La Familia, donc la bande à Edge, et il avait été champion par équipe avec Zack Ryder à l'époque où tous les deux étaient un peu les gardes du corps, si je me souviens bien, ou les doublures en tout
Exactement.
cas de Edge.
Ouais.
Donc, bah, retour un peu
C'était
surprise
Edgehead.
de
Ouais.
Kurt Hawkins, en espérant qu'il n'ait pas la même poisse que Shelton Benjamin, qui bah, n'est
Pauvre
pas prêt
Shelton.
d'arriver suite à sa blessure. On enchaîne sur. Je vous avais parlé tout à l'heure de Bray Wyatt qui avait croisé le chemin de Randy Orton. À la sortie du match de Randy Orton, Bray Wyatt, il était là, non pas pour un match, enfin si pour un match, mais en tant que manager. Puisque c'est Eric Rowan qui est revenu sous la jupe
Ouais.
de Bray Wyatt, il en est dans la jupe de maman, qui affronte ce soir bah, Dean Ambrose. Il est partout celui-là.
Oui.
Donc bah voilà un match qui oppose la brutalité de Eric Rowan à un peu la folie de Dean Ambrose. Donc Dean Ambrose parvient quand même à mettre à terre le géant malgré tous les coups de burin, les gros kicks qui se prend dans la tronche. Je vous passe vraiment le déroulé du match, puisque c'est pas le plus important. Le plus important, donc, c'est victoire évidemment de Dean Ambrose avec son fameux Dirty Deed. Voilà, une victoire pour le champion, merci. Mais par contre, après une petite séquence, Bray Wyatt qui rejoint le vestiaire en abandonnant le masque de Eric Rowan, ce fameux masque de mouton qu'il avait un petit peu customisé avec une espèce de mèche
Ouais,
de cheveux orange.
poil, ouais.
Il est toujours de plus en plus creepy. Donc il abandonne le masque de Eric Rowan sur son fameux rocking chair, donnant l'impression bah, qu'il a été déçu, Bray Wyatt, et que bah, je ne sais pas,
Ouais.
la fin, la troisième fin de la Wyatt Family.
Je sais pas.
C'est la question que je te pose, qui n'a pas forcément beaucoup d'intérêt, parce que cette Wyatt Family a tellement connu
Ouais. Ouais, ils ont eu
de
beaucoup de bif.
réunions et de
Hein.
séparations.
Et puis, ouais, c'est un peu ça. Et puis, en plus, quand on avait vu post-draft que Braun Strowman, qui était vraiment l'atout force de la Wyatt Family, était à Raw et Bray à SmackDown, on s'était déjà dit après la draft qu'a priori la Wyatt Family était terminée. Mais en fait, non, parce que Eric Rowan avait fait un retour, Tony Truant, pour aider son mentor. Donc, du coup, la Wyatt Family était de retour. Bon. Moi, je pense que c'est plus ou moins fini. Oui. Après, ils pourront toujours la recréer à l'avenir, mais je pense que c'est fini pour un moment parce que je pense qu'ils veulent pousser Bray Wyatt en tant que top heel ou en tout cas gros, enfin monster heel de SmackDown. Et à mon avis, il est temps qu'il prenne son envol un peu. Il est capable de le faire parce qu'il a besoin de personne pour parler pour lui. Il le
Ah,
fait
disons
déjà.
qu'à chaque fois qu'il a commencé à prendre son envol, on lui a remis la Wyatt Family
Oui, c'est un
dans
peu
les pattes,
ça.
quoi.
Ouais, donc je pense qu'il est grand temps quand même qu'il puisse faire ses preuves en solo, parce qu'au micro, il est capable. Dans le ring, c'est quand même un mec qui a un physique relativement imposant, donc il est déjà puissant. C'est pas un heel un peu chétif, un peu qui, tu vois, un peu couard, moqueur, qui aurait besoin d'un gros bras à côté de lui pour se tirer d'affaire. Technique, il est tout à fait crédible dans le ring pour porter lui-même ses matchs et défoncer des gars. Donc, je trouve que ça y est, c'est le moment. Le public mord à fond dans toutes ses promos, dans son personnage. Il a vraiment réussi à créer un truc à lui. Et franchement, je trouve que, enfin, c'est impressionnant. Faudrait à un de ces quatre qu'on se penche quand même sur. Je ne vais pas faire plaisir à Kovacs, hein, s'il écoute l'émission, parce que lui, il le déteste, mais viscéralement. Il est peut-être pas le seul, mais enfin, faudrait quand même qu'on se penche un de ces quatre sur la carrière du mec qui, en effet, bon, n'a pas de titre à son actif, n'a pas encore de grandes victoires, de grands trucs, mais il fait quand même un parcours plus que solide depuis plusieurs années. Il est dans des gros matchs à chaque fois, à WrestleMania, dans les grands pay-per-view. Il a quand même pas mal d'affiches de prestige à son actif, et il est encore jeune. Et moi, je pense que, vu ce qu'il a réussi à installer dans l'esprit du public, son personnage et son entrée, sa musique, son style très atypique dans le ring, certains de ses signature moves, son finisher qui est assez inédit, enfin, y a tout plein de choses qui font que ce mec-là, ça se trouve, on verra dans 5 ans, on va se dire, putain, ouais, enfin, il fait partie du paysage du haut de l'affiche, quoi. Moi, je commence vraiment à y croire à Bray Wyatt, et je me dis que SmackDown, ça peut être une super opportunité. Enfin, ce nouveau SmackDown Live peut être une belle opportunité pour lui. Donc, je suis plutôt content de le voir se séparer d'Eric Rowan. Et je souhaite, pour répondre à ta question, on va dire que je souhaite plutôt que ce soit la fin de la Wyatt Family. Après, est-ce que c'est la fin de la Wyatt Family? Je sais pas.
Ah, ça c'est aux bookers et scénaristes d'en décider,
Ouais,
moi.
je souhaite que ce soit la fin. Moi, je me dis toujours, tu vois, il y a Luke Harper qui n'est pas encore dans le roster. Ça se trouve, peut-être que le jour où il va revenir, il va peut-être se retrouver encore dans les pattes de Bray, parce que bon, c'est Luke Harper, machin. Mais bon, j'espère, voilà, j'espère que c'est fini et que Bray Wyatt va pouvoir.
Ils sont tous, de toute façon, ils sont tous capables, tous les trois. Eric Rowan peut-être un peu moins, mais en tout cas, Bray et Luke Harper à son retour, qu'on espère bientôt, ils sont tous capables
Dans
de
des
faire
styles différents, ils peuvent tout
tenir
à fait
solo,
être.
quoi.
Ah,
Donc Bray Wyatt, effectivement, a un potentiel de top heel assez impressionnant. Il avait été, enfin, lors de la draft, il avait été piqué assez haut. Et clairement, on l'a remis dans les pattes tout de suite du champion via la feud avec Dolph Ziggler. Là, on le fait croiser avec Randy Orton, il y a un jeu de regard. Est-ce que
c'est
c'est un
pas
coup d'un
anodin, je
soir? On ne sait
pense.
pas. On plante des graines. Clairement, on place Bray Wyatt un peu partout. Bon, après, il va falloir le mettre vraiment quelque part. Mais je pense qu'effectivement,
C'est
il
pas
est.
anodin, je pense. Sa petite
Non, c'est pas
graine avec
anodin. Rien
Randy
n'est
Orton.
anodin.
Randy Orton, en plus, va de toute façon avoir besoin d'une feud après Brock Lesnar, puisqu'ils sont pas dans les mêmes shows.
Et les deux
Ils
sont
seraient
jamais
dedans.
vraiment croisés, hein,
Non, et puis en plus, c'est une
sauf
affiche
erreur.
assez inédite. Ça peut être assez rigolo. Ce nouveau Randy Orton, très facétieux, très provocateur, là, depuis qu'il est revenu, très sûr de lui. Il joue un petit peu le vétéran, quand même. Hein. Randy Orton, maintenant, tu sens qu'il est chez lui. Il est très narquois, très moqueur dans ses promos. Face à un Bray Wyatt fantasque et menaçant, et tout, ça peut donner des échanges amusants.
C'est
Donc,
tentant.
c'est tentant. Moi, ça me tente bien. Et puis, c'est une
Alors,
feuille de très haut calibre.
ouais, beaucoup de potentiel. On parlait tout à l'heure de la scène par équipe, une autre scène qui avait un petit peu eu de mal à décoller au lancement du nouveau SmackDown, c'est la scène féminine, la division féminine
Ah oui.
à SmackDown. Donc, elles ont eu droit à une séquence en tout cas déjà un peu plus étoffée, puisque un match est tout d'abord annoncé entre Naomi et Eva Marie. Donc, entrée Naomi dans un tout nouveau style, hein, en mode tectonique fluo kids dubstep.
Là, c'est incroyable. Putain, c'est pas bon pour les épileptiques, hein. Faites attention.
Assez entraînant, donc fond noir, musique à fond, dubstep et compagnie. Là, il y a du potentiel aussi par rapport au public. Le
Ouais,
public, je ne sais pas si le public est bien embarqué, mais en tout cas, à la télé, ça rendait pas mal. Mais par contre, Eva Marie, elle. On la voit pas, parce que sa fameuse voix de narrateur, là, qui l'annonce en grande pompe, annonce avec une voix déclamant que dû à des problèmes de circulation, donc elle est visiblement dans les bouchons, Eva Marie n'a pas pu se rendre au stade, donc le match est annulé. On a un deuxième match qui est programmé, heureusement pour nous, opposant Becky Lynch et Carmella à Natalia et Alexa Bliss. Donc il y a des espèces de rivalités croisées, évidemment. Alors que le match est en cours et que Becky et Natalia viennent de se neutraliser par une double clothesline assez solide, on a le titantron de Eva Marie
Qui se
se met en jeu, qui
relance,
se
ouais.
relance et qui Eva Marie donc qui rentre mine de rien, toujours avec
Voilà.
cette voix qui l'annonce, voilà, ben c'est bon, elle a réussi à sortir des bouchons, elle a pris, peut-être, je sais pas, elle a pris une bicyclette ou le métro ou quoi, mais en tout cas elle a réussi à se rendre au stade. Mais elle n'a pas le temps de se rendre jusqu'au ring que Naomi, une fois de plus, à son tour, débarque. Alors là, on ne sait pas trop vraiment pourquoi, mais elle fonce directement vers le ring, Naomi, et elle se fait chasser par Natalia, qui enchaîne sur un roll-up, une tentative de roll-up sur Becky Lynch, hein, les deux étaient à terre, je vous le rappelle, qui elle contre ce tentative de roll-up avec son finisher, le Disarmer, donc sa prise de soumission. Elle fait taper Natalia, et donc c'est la victoire de Becky Lynch et Carmella qu'on avait déjà oublié, et la célébration des trois gentils, puisque Naomi, qui est dorénavant gentille, vu qu'elle donne des goodies, elle lance des goodies au public,
Ah oui, là,
les
c'est sûr.
rejoint, et donc c'est célébration des trois, même s'il n'y en a que deux qui sont battus, et on annonce dans la foulée un nouveau match qui sera probablement
Qui
dans le
sera.
pré-show.
C'est sûr, même. Hein, là, je vois pas
Un
comment ils peuvent.
3v3 opposant les gentilles filles aux méchantes filles à SummerSlam. Bon, rapidement, où en sont les filles à SmackDown, mon bon Giscard?
Oh. Bah, elles sont, pour moi, elles sont au fond du trou, hein, mais et puis elles sont pas prêtes d'en sortir, je pense, hein. Mais bon, moi, ça me déprime. En fait, c'est bizarre parce que quand tu vois ce segment, t'as envie de te dire, bah, écoute, c'était pas mal, c'était plutôt même mieux que les semaines
Ouais,
précédentes.
on a construit, on a fait croiser un peu des
Ouais,
rivalités, on a
ouais.
voilà.
Et, en
C'est
fait,
un
moi,
peu, c'était quand même un peu mieux que le défilé où elles étaient appelées l'une après l'autre.
ce qui me dérange, c'est que, en fait, l'angle principal de la division féminine à SmackDown, c'est Eva Marie. Manifeste. Enfin voilà, elle est dans tous les segments.
Oui, ça tourne
Elle,
autour d'elle.
ça tourne autour d'elle. Et le problème, c'est que, enfin, c'est une blague en fait. Et je trouve que c'est très révélateur en fait du traitement des filles à SmackDown par rapport à Raw. C'est-à-dire que ok, c'est rigolo, c'est plutôt même bien fait. Tu vois, on s'amuse pendant SmackDown, on se dit oh putain bien joué, on nous l'avait pas fait le coup du trafic. Et puis elle revient après avec la voix, ça nous fait rire et tout. Ok. Et la semaine dernière, le coup de ah elle perd son soutif, machin. Ah ok, bon allez bien vu, c'est rigolo. Mais en fait, à chaque fois, c'est juste ça montre à quel point ils prennent pas du tout au sérieux le catch féminin à SmackDown. Enfin, est-ce que tu imagines ce type de segment avec des mecs? Genre, est-ce que t'imagines un catcheur qui perd
Un accident vestimentaire.
Non, mais évidemment, ça peut pas arriver parce que oui, parce qu'ils portent pas de soutif et tout, mais jamais ils écriraient quelque chose en disant que genre le mec il troue son slip ou genre j'en sais rien ou une connerie comme ça. Genre tu après moi je suis pas
Bon, on a des
spécialement.
segments chez les hommes qui sont parfois pas forcément plus glorieux. Le
Ouais, mais.
Raw de cette semaine ou des semaines passées.
Je trouve que c'est. Non, mais je suis
Black
d'accord. Il
Gâteau.
y a des écritures, il y a des trucs pipi, caca prout, des machins, des blagues en dessous de la ceinture, des machins. Mais je trouve qu'en fait, ça, c'est super révélateur du. Je suis pas du tout féministe ou quoi que ce soit, ou autre, mais je trouve que c'est ultra marqué. Voilà, une semaine, c'est. Elle perd son soutif, elle peut pas. J'ai l'impression de revenir à l'époque où ils faisaient, avec Michelle McCool et Leila, des matchs de planchards passés, quoi. Tu vois, c'est.
Bah
On est.
d'ailleurs, j'en profite juste. Tout à l'heure, je vous ai parlé du podcast de Stone Cold, mais alors une autre vidéo à regarder sur le network, évidemment, c'est le WWE 24,
Ouais.
justement consacré à la Women's Evolution,
Ouais.
qui est super prenant. Ça dure 45 minutes, donc ça montre l'évolution de la division féminine. Et c'est super passionnant. Et justement, bah, ça, on retrouve justement ce genre de choses, bah, un peu les deux visions un peu différentes du catch
Ouais.
féminin.
Bon, pour rester bref, vraiment, moi je trouve que ok, c'est bien. Moi, je suis plutôt bon public et franchement, pendant SmackDown, j'ai passé un bon moment et j'ai bien rigolé. Et je me dis, putain, bon, allez, ils ont encore trouvé une autre façon de nous surprendre avec ce running gag, machin. Mais le problème, c'est que justement, en fait, c'est ça, quand tu réfléchis, enfin, c'est un running gag. Et genre, l'angle principal de la nana qui fait
Ouais.
cette sorte de top heel à SmackDown, machin. C'est un running gag et genre ouais voilà c'est un running gag basé autour de blagues sur son soutif crack, elle est coincée dans le trafic, En fait, c'est des divas. On est revenu vraiment sur à SmackDown, c'est des divas et à Raw, c'est des catcheuses.
Alors effectivement, je pense que le problème est peut-être juste simplement, si je peux dire, dû au fait que le point de focalisation, il est vraiment sur Eva Marie.
Ouais.
Et que du coup, bah, Eva Marie, mais du coup, c'est son personnage qui est comme ça, qui incarne
Ouais.
justement cette époque-là. Et bah, ça cristallise à la fois, c'est à la fois un côté humoristique, mais aussi effrayant pour nous qui
Ouais,
voulons autre
voilà.
chose.
Ouais, c'est
Et
ça.
malheureusement, à SmackDown, à l'heure actuelle, on nous propose que ça. Donc, comme tu le dis, c'est marrant, mais ça nous, on n'en sait rien. Peut-être que les bookers, effectivement, après SummerSlam, ils ont imaginé des
Ouais,
choses plus
peut-être qu'ils ont
intéressantes.
écrit plein de
Mais
trucs.
quand tu vois ça,
Quand
tu es
tu
en
vois
droit
la...
d'avoir peur et de te dire,
Ouais.
mince, ils ont déjà pas beaucoup de temps d'antenne sur SmackDown.
Ouais, c'est
Il
ça.
va probablement pas avoir plus d'une séquence ou deux maximum consacrée à la
Ouais.
division féminine. Les matchs, ils durent même pas 3 minutes. Bah voilà, on est craintif, on se dit, bah, en espérant qu'on va pouvoir, qu'ils vont
C'est
nous
ça.
proposer autre chose.
Et
Donc,
puis,
ce qu'il nous faut, voilà, c'est qu'on
attends.
change un moment le point de focalisation sur un autre. Eva Marie, elle fait du super boulot en tant que heel.
Ouais, non, mais on peut rien lui reprocher, hein.
Là, on
Elle
en
joue
parle,
parfaitement
je
ce qu'il
pense
faut
que c'est parce
pour.
qu'elle fait, comme tu dis, du bon boulot et c'est génial. Mais il nous faut autre chose, il faut une balance, quoi, quelque chose qui contrebalance ça et
Surtout,
une autre rivalité.
surtout quand tu vois qu'en plus en face, bon, la top face c'est clairement Becky Lynch, donc ça c'est bien, c'est une bonne base, mais genre juste en dessous d'elle, ouais, ce sera peut-être Naomi du coup maintenant, mais jusqu'à aujourd'hui, la numéro 2, on va dire, face en dessous, c'était Carmella, qui avait une entrée genre bitchy, machiste au possible, genre la petite blondasse surbronzée, orange, qui se trémousse et qui parle comme une princesse du ghetto et tout machin, enfin, genre c'est. Tu
Elle est
vois, genre
face
c'est.
parce qu'elle est avec Becky Lynch dans son match par équipe, quoi.
Ouais, donc genre tu vois, c'est pas sérieux quoi. Quand t'as Charlotte et Sasha Banks en face qui se battent pour le titre, c'est quand même autre chose quoi. Mais bon, voilà.
Alors, du coup,
C'est...
là, on parlait de nos souvenirs par rapport à la division féminine. Là, je sais pas si t'as fait pareil, mais moi, il y a une petite séquence backstage qui m'a rappelé un autre souvenir de l'époque d'Attitude Era. Alors,
Dis-moi.
je sais pas où on était peut-être dans les douches de la prison, j'en sais rien. Mais la séquence, voilà, on a un gros plan sur le visage de Callisto qui
Oh
se mord
putain,
les
c'est
lèvres,
incroyable ça.
qui a le visage plaqué bah, contre une porte de garage. Et donc, visiblement, quelqu'un est derrière lui à le malmener. Et la caméra recule et on découvre que c'est Baron Corbin donc qui lui fait une sorte de clé de bras. On l'espère en tout cas que c'est une clé de bras et pas autre
Ouais.
chose. Et donc qui lui, alors je ne sais plus ce qu'il lui dit exactement, j'ai même pas noté, mais visiblement il dit il l'aime pas quoi, hein, grosso modo.
Ah non, ouais, il l'a pris en grippe là.
Il l'a pris en grippe, donc il lui demande je sais pas s'il lui a demandé de ramasser sa savonnette là, mais bon, c'est assez gênant comme séquence. Les arbitres interviennent et séparent les deux, donc voilà, on a une petite rivalité entre les deux qui se met en place et on n'en a rien à foutre. Autre séquence backstage, un poil plus intéressant, surtout qu'on sait ce qui s'est passé très très récemment. Elle concerne Alberto Del Rio, puisqu'on a droit à une petite vidéo qui rappelle à nos bons souvenirs que Alberto, quand il est revenu, il a affronté qui?
John
John
Cena.
Cena, évidemment, pour le titre US qui lui a pris de façon très clean. Donc, il était revenu en force, hein, Alberto Del Rio, avant de connaître effectivement le gros passage à vide. Enfin, il n'a fait que descendre, il était sur une pente descendante tout le long. Donc, AJ Styles le félicite, car lui, AJ Styles, il avait vécu ce moment-là, il était sur son canapé à l'époque où il a vu Del Rio reprendre le titre à John Cena. Et Del Rio annonce que bah, ce soir il a un match justement contre John Cena et que bah, il va le battre hein, comme il l'a battu la première fois pour le titre US. Et AJ Styles lui, bah, il lui rappelle à Alberto Del Rio que c'est AJ Styles qui va affronter John Cena à SummerSlam, mais que Del Rio lui n'est pas sur la carte de SummerSlam.
Ouais.
Donc grosse pique.
Tiens, dans ta gueule.
Mi work, mi shoot, ce que vous voulez. Quand on sait que bah, Del Rio vient d'être suspendu par la WWE pour des histoires de wellness policy, avec également sa chère et tendre Paige. Du coup, bon, bah, c'est un peu, je pense, la fin pour Alberto Del Rio. Toujours est-il que, bah, quitte à partir, autant partir comme on est venu. Donc, match entre John Cena et Alberto Del Rio. Un match assez solide entre les deux, hein, qui déroule tous les deux leur partition habituelle, qui finit par une victoire du Marine avec le fameux double A, l'attitude adjustment.
Hey.
Pendant ce temps-là, au commentaire, il y avait AJ Styles si je me trompe pas, oui, c'était bien
Oui,
ça.
absolument. Ouais.
Ah, maintenant, avec la table des commentateurs qui est à l'autre bout, on ne les a plus en vision, on les a juste à l'oreille. Qui étant le Marine avec son fameux phénoménal arme. Donc, une fois de plus, super bien filmé, hein, vraiment, là, je sais pas ce que
Ouais, nickel.
les caméramans, là, d'habitude, pendant l'été, c'est plutôt les stagiaires qu'on a.
Non, mais à SmackDown, en plus, ils tentent pas mal de nouveaux angles de caméra pendant les matchs, avant, après, avant. Enfin, c'est cool. Et du coup, là, c'était vachement bien filmé.
Donc, AJ Styles raconte une fois de plus qu'il en a toujours marre de John Cena, qu'il annonce qu'il sera the face qui runs this place, que voilà, la passion de John Cena, elle est bien, c'est bien beau, mais lui, il va le, alors, je sais plus comment il a prononcé ça, mais qu'il va l'enfermer dans sa passion. Il y avait une histoire de, voilà. Et quand il s'apprête à quitter le ring, AJ Styles, et qu'il revient pour porter son finish, parce qu'AJ Styles n'avait pas fini visiblement. Et ben il est cueilli par John Cena qui le fait passer à travers la table des commentateurs avec son attitude adjustment depuis les escaliers de fer.
Magnifique.
Magnifique, voilà. John Cena a passé son adversaire à travers la table des commentateurs. Oui, je dis des bêtises. En fait, on est à SmackDown et la table des commentateurs est toujours au bord du ring.
Oui, elle est
Voilà.
encore au bord du
Elle
ring.
est toujours là. Elle est toujours là. Donc voilà comment se positionne un petit peu cette affiche encore pour John Cena et AJ Styles. Ma question pour toi, Giscal, l'expert Cena-esque, est-ce que John Cena doit perdre cette rivalité avec AJ Styles? Je ne te parle pas seulement du match à SummerSlam, je te
Oui.
parle véritablement de la rivalité parce que le match. Peu importe l'issue, ce qui compte, je trouve, pour moi, pour cette question-là, c'est vraiment la rivalité.
La rivalité, hein.
Est-ce qu'il
C'est pas
doit, c'est pas
facile
est-ce
comme
qu'il va,
question.
mais c'est vraiment est-ce qu'il doit. Est-ce
Est-ce
que
qu'il
John Cena
doit?
devrait
Est-ce
perdre
qu'il
cette rivalité?
doit?
Ça fait très longtemps que John Cena n'a pas perdu de rivalité, finalement. Il a toujours porté, on se souvient de sa rivalité avec Kevin Owens, hein, ou, qui a placé Kevin Owens, notamment avec son premier match remporté.
C'est-à-dire qu'il donne souvent des victoires de prestige, mais il perd rarement les rivalités, c'est vrai.
Voilà. Est-ce qu'il est temps pour John Cena de perdre une grosse rivalité? Et quand on sait que cette rivalité, la rivalité actuelle, est face à AJ Styles, ce qui serait pas anodin.
Ah oui, non, ce serait loin d'être anodin. Et d'ailleurs, rien que pour ça, je pense que ça m'étonnerait quand même. Mais
Mais est-ce qu'il devrait? Est-ce que au-delà de ce qui va se passer, au-delà du Cena wins LOL, etc., est-ce
je
que John
pense.
Cena devrait perdre
Je pense pas. Je pense pas qu'il devrait spécialement la perdre, celle-ci. C'est pas forcément l'adversaire qui me viendrait à l'esprit si jamais je devais donner une victoire de feu contre John Cena parce que AJ Styles il a aussi 40 balais, ils sont dans les mêmes eaux, je crois, les deux.
Oui.
Et donc, du coup, c'est pas non plus quelqu'un qui est là pour 10 ans après derrière. Donc, je pense pas que ce soit AJ Styles qui va remplacer John Cena, parce que c'est vrai qu'on parle pas mal. John Cena, ça y est, il a passé grosso modo le pic de sa carrière. Maintenant, il est plus dans une position de gardien du temple, un peu. Genre, c'est par lui qu'il faut passer pour accéder au main event,
Ça,
mais.
il nous le répète suffisamment.
Il nous le répète souvent, mais maintenant on commence à comprendre aussi que va peut-être falloir lui trouver un remplaçant. Je crois qu'ils ont tous les deux le même âge d'ailleurs, mais bon, bref, tout ça pour dire que c'est peut-être
Oui,
pas
ils fêtent leur
forcément.
anniversaire ensemble au
Ouais.
Quick.
Du coup, c'est peut-être pas forcément AJ Styles qui va remplacer John Cena. Et en fait, là c'est pour ça que je suis un peu ambigu dans ma réponse, c'est parce que depuis le début, mon pronostic, c'est que ces deux-là vont probablement avoir une feud très longue durée en fait. Moi, à chaque fois, je le répète à chaque fois, mais je les vois bien avoir une rivalité vraiment historique, dans la même veine que les rivalités qu'il a pu avoir contre CM Punk, contre Randy Orton, contre Edge, des feuds qui s'étalent sur 4, 5 ans, avec des matchs d'anthologie, espacés parfois de 3, 4, 5, 6 mois. Je les vois bien avoir ce type de rivalité-là. Parce qu'ils en ont les moyens, ils ont le background, ils ont la technique, ils ont le star power pour le faire, ils ont l'alchimie pour le faire, je pense. Il y a une telle opposition de style, d'histoire et de symbolique entre les deux qu'ils peuvent le faire. Et donc, en fait, une feud si longue, au final, qui.
Finalement, ce serait cette rivalité-là.
Celui
Non
qui va la
seulement Cena doit pas
gagner.
la perdre, peu importe s'il perd cette
Ouais, peu
première
importe
séquence de
s'il la
match, en
perd
fait. Là, on est vraiment au
ouais.
début.
Ouais, on est au
C'est le
début,
premier
donc
chapitre. Toi, et toi, t'en veux
ouais,
10.
voilà. Moi, je pense que c'est voilà, je pense que c'est exactement ça. Je pense que c'est le premier chapitre d'une longue histoire, et ce premier chapitre, il doit le perdre. Ça, je suis d'accord. Je pense que ce premier chapitre, il doit le perdre avant qu'il se retrouve plus tard, parce qu'ils vont se retrouver, je pense. Et là, après, bon, bah, advienne que pourra, ce sera une feud entre deux futurs Hall of Famers, de légende. Celui qui gagne n'a finalement peu d'importance. Ils sont dans la même tranche d'âge, ils ont le même star power. Pas pour les mêmes personnes, pas pour les mêmes publics, mais ils ont à peu près le même star power, je pense. Donc voilà, alors à ce moment-là, si je devais peut-être plus préciser, je pense que ce premier chapitre est très important pour AJ Styles, et John Cena doit perdre ce premier chapitre, qui ne sera pas forcément terminé à SummerSlam, hein,
Non, et
mais oui.
puis après, il y a la manière de perdre une rivalité, en tout
Voilà,
cas un premier
exactement.
chapitre. Hein. On sait
Exactement.
très bien que souvent, c'est dans ce genre de rivalité. Parfois, les bookers ont du mal à décider d'avoir un gagnant très clair de
C'est
rivalité.
ça, ouais.
Et ils font intervenir d'autres catcheurs et on met en place d'autres histoires. Et les deux se quittent. L'histoire
Voilà.
est pas vraiment terminée entre les deux. Ok, c'est peut-être l'un qui a gagné le dernier match, mais c'était pas forcément très clean. On passe à autre chose. 6 mois plus tard, chapitre 2.
Et puis le match à Money in the Bank, je pense, a été fait pour. En tout cas, je la lis comme ça, cette rivalité. Je pense que ce match a été fait pour que AJ Styles gagne à SummerSlam. Encore et cette fois sur un truc peut-être sur une sur quelque chose d'un peu ambigu qui laisserait peut-être la porte ouverte à un troisième à un troisième match mais je pense que qu'est-ce que je raconte? Non, excusez-moi parce que du coup si moi je veux qu'il gagne mais en trois manches AJ Styles hein, mais je pense que la feud pardon a été écrite plus pour que John Cena gagne sur un truc un peu foireux à SummerSlam. Parce que ce que j'ai dit dans un podcast précédent, mais voilà, Money in the Bank, il nous avait vendu le match comme un dream match, un dream match, un dream match, le match de rêve, c'était celui que tout le monde voulait voir, que même les catcheurs, eux, avaient envie de faire,
Ouais,
et
et puis on nous l'avait volé ce
finalement, on
dream
nous l'avait
match.
volé, avec
Il était
l'intervention du
sali.
club, ce match avait été sali, AJ Styles avait une victoire teintée de controverse, mais il avait gagné, donc 1-0, et du coup, moi, je voyais bien à SummerSlam un match absolument dingue de 25 minutes, voire peut-être, allez, soyons fous, 30 minutes, mais je pense pas, parce que la carte est très chargée. La carte est déjà
Calme-toi,
très chargée,
calme-toi.
mais un gros gros match, vraiment, je pense qu'ils vont faire péter le toit du stade de Brooklyn. Un match dingue que John Cena remporte sur un truc qui permettra à AJ Styles de sortir très grand parce qu'il aura fait un match de taré et de demander une revanche qu'il gagnera cette fois. C'est comme ça que je vois cette rivalité et je pense que c'est comme ça qu'il faut que ça démarre parce que sinon AJ Styles va peut-être avoir du mal quand même à connecter, à s'établir avec le reste du public qui ne le connaît pas encore aussi bien que le monde indépendant et les suiveurs de la TNA, enfin les fans un peu plus hardcore. Donc je pense il doit gagner ce premier set, on va dire, qui se jouera en trois jeux.
D'accord, ok. T'as un peu trop regardé les JO dernièrement, genre
Trop d'allégories sportives
là.
peut-être. Ouais.
Ok. Eh ben, c'est ainsi donc que c'est terminé donc ce SmackDown. C'est l'heure donc de la note du top et du flop, le fameux mot de la fin. Donc, Giscard, si tu devais me donner une note, et tu dois le faire en fait,
Oui.
tu dois donner une note, ton top et ton flop
Et ben
cet épisode de SmackDown.
une note, je vais donner 3. 3 sur 5. C'était supérieur à la moyenne, mais c'était pas fantastique. On va dire que c'était solide dans l'ensemble. Il y a eu de la très bonne hype sur les gros main events de SmackDown. Donc le titre suprême, Randy Orton et John Cena et AJ Styles. Une bonne hype. Sur le reste de la carte, mais bon, c'est les failles du Go Home Show. Hein, les filles ont été moins bien traitées, les équipes ont été moins bien traitées. Le titre intercontinental a été. D'ailleurs, on n'a pas parlé d'Apollo Crews, je crois, mais bon.
Ouais, c'était. Je voulais en parler un moment, c'est une de mes
Ouais,
questions, je l'ai zappé, sera l'objet de. On verra un peu après ce qui se passe à SummerSlam, mais
c'est
effectivement.
ultra light. Donc vraiment, ils se sont concentrés sur les trois gros matchs. Le reste de la carte est un peu bancal, mais bon, en même temps, tu me diras, les équipes et les divas n'ont pas de match sur la carte
Bon,
officielle.
ton top et ton flop, Giscalou, parce que sinon là, tu vas tout nous refaire.
Donc 3. Et puis mon top c'est je vais remettre la promo de Ambrose et enfin le Miz TV, le segment Miz TV. Je trouvais que c'était vraiment bien et ça donnait le point d'exclamation final au build de ce match que j'attends avec impatience. Et mon flop c'est bon, c'est les filles. J'ai suffisamment expliqué pourquoi j'étais pas content donc c'est les filles et c'est le running gag Eva Marie pour être plus précis.
Ok, et eh ben écoute, moi je vais donner effectivement la même note que toi, 3, ça me paraît très 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 bien, pour les mêmes raisons que tu as donné. En top, et eh ben ça pourrait équilibrer un peu ton flop, je vais mettre la nouvelle entrée de Naomi, moi qui m'a bien 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 fait kiffer, petite lueur d'espoir on va dire, dans cette scène un peu navrante de la division féminine à l'heure actuelle, à SmackDown. Et dans le flop, ben justement, t'en parlais juste avant, je l'avais mis, c'est le build fantomatique du match pour le titre intercontinental. Hein.
Ouais, c'est pas
Là,
sérieux ça.
franchement, c'est pas très sérieux. Pourtant, ça partait pas mal avec ce triple
Ouais.
threat entre trois jeunes pousses. C'était assez emballant. Ils en avaient profité pour créer une rivalité avec Kalisto et Baron Corbin, si je dis pas de bêtises.
Ouais, c'est
Et
ça.
du coup, Apollo Crews, bah voilà, il avait gagné à la régulière et c'était intéressant. Mais alors depuis, quasiment aucune interaction, si je dis pas de bêtises, entre les deux, entre Baron Corbin et le tenant du titre. Ou très très peu. Là, il apparaît même pas dans SmackDown, donc bah c'est un flop quoi pour ce titre intercontinental. Il va falloir faire quelque chose après SummerSlam, les mecs. Hein.
Mais
Là.
c'est fou quand même. Enfin, Apollo Crews n'apparaît en effet pas pendant le show. Il apparaît, enfin, il apparaît pour les spectateurs sur place pendant une coupure pub hein, quand même. Hein.
Ah oui, tu as raison, effectivement, il y a une
C'est
séquence
quand
sur
même,
coupure pub. C'est
quand
navrant.
même incroyable. Le
C'est
mec
navrant.
apparaît, il vient pendant une coupure pub, il porte sa powerbomb sur le Miz et c'est tout. Voilà.
Ils ont deux titres, hein, et ils ont build un seul, quoi.
Ils ont deux titres, ils nous font chier pour en rajouter deux autres et ils en build qu'un sur deux. C'est quand même con.
Exactement. Bah ça sera sûrement l'objet d'un autre épisode, mais effectivement, on pourrait parler de ça, hein. Vous voulez racheter des ceintures, mais
Commencez par vous occuper de vos ceintures quand
exactement.
même. Voilà.
Exactement. Eh bien, merci Giscal pour ta participation à ce supplément SmackDown.
Écoute, merci à toi IRM de m'avoir convié.
Donc, je vous souhaite à tous un très bon SummerSlam. N'oubliez pas d'aller pronostiquer sur les cahiers du catch et ben, vos pronostics pour le pay-per-view de l'été. Vous pouvez nous retrouver évidemment sur iTunes, PodCloud et YouTube. Abonnez-vous, mettez des likes, posez des questions dans les commentaires sur YouTube. Nos copains de Catch Up Pro ou nous-mêmes y répondront tôt ou tard. Et en petit bonus, on balancera sur YouTube notre séquence Food of the Year, hommage à nos copains de Year of the Food. Non, c'est
C'est
l'inverse.
l'inverse. Mais bon, c'est plutôt bien.
C'est mignon, c'est mignon. Nos pronostics donc pour inverser pour SummerSlam. À bientôt, salut à tous et à la prochaine.
Ciao tout le monde. Oui, mais bon, c'est important de savoir le faire sous l'eau.